Radio Prague, les informations. Bonjour, mercredi était le premier jour de deuil national en République tchèque. À cette occasion, Václav Klas a souhaité que l'esprit de la révolution de velours ne disparaisse pas avec Václav Havel. Et puis enfin, économie, aide à la zone euro, le gouvernement a une nouvelle fois reporté sa décision. Václav Havel a, comme personne d'autre, contribué à la position internationale, au prestige et à l'autorité de la République tchèque dans le monde. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le président de la République, Václav Klaus, dans son discours, prononcé lors de la cérémonie qui s'est tenue à l'occasion de l'arrivée de la dépouille de Václav Havel au château de Prague. L'actuel chef de l'État a formulé le vœu qu'avec le décès de Václav Havel ne s'achève pas en République tchèque l'ère entamée en novembre 1989 avec la révolution de velours. Václav Klaus a rappelé que son prédécesseur était arrivé à la tête de l'État après 40 ans de dictature communiste. Notre révolution de velours et l'époque du renouveau de la liberté et de la démocratie resteront toujours liées au nom de Václav Havel, a déclaré Václav Klaus, qui a par ailleurs appelé à poursuivre les efforts de Václav Havel pour que la responsabilité ne soit pas une notion vide de sens et pour que la défense des libertés des citoyens devienne une notion politique fondamentale. Et puis à travers le pays, les drapeaux étaient en berne ce mercredi, premier jour du deuil national qui durera jusqu'à vendredi, jour des funérailles. Vendredi sera jour de deuil également en Slovaquie, dont Havel a aussi été le président avant la partition de la Tchécoslovaquie. En conséquence, de nombreux événements culturels, notamment musicaux, sont annulés pendant ces trois jours. Les concerts plus intimistes se déroulent toutefois, mais la plupart vont de pair avec un moment de recueillement à la mémoire de Václav Havel. Vendredi à midi, lors des obsèques, une minute de silence sera respectée partout dans le pays. Et puis précisons que dans quelques instants, dans les faits événements, nous reviendrons sur la participation de milliers de personnes au cortège funéraire qui a accompagné la dépouille de Václav Havel au château de Prague ce mercredi. Économie réunit ce mercredi, la coalition gouvernementale n'a une nouvelle fois pas pris de décision concernant la participation ou non de la République tchèque à l'aide à la zone euro. Le cabinet, dont les représentants ont indiqué ne pas se sentir pressé par le temps, entend continuer à débattre de la question, notamment avec la Banque centrale qui doit accorder le prêt tchèque. Initialement, suite au récent sommet européen, il avait été demandé à la République tchèque de verser 3,5 milliards d'euros au Fonds monétaire international. Ce montant sera toutefois très probablement revu à la baisse si la République tchèque accepte d'apporter son aide. Le président de la République, Václav Klaus, a signé ce mercredi la loi du budget de l'État pour 2012 qui avait été approuvée par la Chambre des députés la semaine dernière. Le montant de son déficit doit s'élever, rappelons-le, à 105 milliards de couronnes, soit environ 4,3 milliards d'euros. C'est un montant inférieur de 30 milliards de couronnes à celui prévu pour la fin de cette année. Le gouvernement a toutefois déjà fait savoir que la loi pourrait être amendée et le budget modifié dans le courant de l'année prochaine si les perspectives et la situation économique ne sont pas favorables. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable à couvert qui règne sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi, jour de la fête des Chimones, quelques faibles chutes de neige et averses à caractère local sont possibles. Les températures varie entre 0 et 4 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester entre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Prague a rendu hommage à Václav Havel. Son cercueil a été transféré en grand cortège funèbre de la vieille ville au château de Prague. Entretien avec Kaja Makele, auteur franco-congolais, venu présenter ses textes à Prague. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique historique, dans le cadre de laquelle le philosophe Jan Sokol évoquera la vie et l'œuvre de Václav Havel. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Prague était en deuil ce mercredi pour dire adieu à Václav Havel. Sa dépouille a été transférée dans la matinée de l'église Sainte-Anne dans la vieille ville au château de Prague où était préparée une cérémonie officielle. C'est au son des cloches des églises de la vieille ville que le cortège suivant la dépouille de l'ancien président s'est mis en marche. Dans le cortège se trouvaient, outre les membres de la famille du défunt, son épouse Dagmar et son frère Ivan, de nombreuses personnalités liées d'amitié avec le président, mais il y avait surtout cette énorme foule de simples gens qui marchaient silencieux et graves. On pouvait lire sur leurs visages que la participation à cette cérémonie était pour eux une affaire de cœur. En expliquant sa présence au micro de Radio Prague, une femme n'arrivait pas à dominer son émotion.
Protože si nesmírně vážím bývalého pana prezidenta Havla. A je to vlastně to poslední.
Je suis venue parce que j'ai énormément de respect pour l'ancien président Havel et c'est la dernière chose que je puisse encore faire pour lui. Merci.
Co ještě můžu udělat? Děkuji.
Parmi les personnalités marchant dans le cortège figure aussi l'ancienne présidente de l'Académie des sciences tchèque, Helena Ilnerová.
Je suis venue parce que j'aimais et je respectais beaucoup Václav Havel. Je crois que c'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et je suis très heureuse que nous l'ayons eu. Je sentais donc que c'était comme un devoir de venir. J'ai besoin d'exprimer ma tristesse avec les autres gens.
Ils étaient à peu près 10 000 à former ce cortège, et parmi eux, chose étonnante, aussi énormément de jeunes. Ces jeunes n'étaient pourtant pas encore nés quand Václav Havel était puni dans les prisons communistes pour son courage de dire non à l'arbitraire. Ils n'ont pu connaître Václav Havel que dans le rôle de président, et pourtant leur rapport vis-à-vis de lui est resté humain et quasi intime.
Já jsem se osobně přišel rozloučit s Václavem Havlem.
Je suis venu dire adieu à Václav Havel, que je respecte. Mon rapport vis-à-vis de lui était quelque chose de plus qu'un simple rapport vis-à-vis d'un homme politique et d'un homme d'État. C'est donc pour moi un adieu personnel.
Un autre participant au cortège est venu parce qu'il se rend compte de la grandeur de l'ancien président.
Chci prožít tu atmosféru, protože aby nezmizel z života jen tak bez povšimnutí, abych měl prostě vzpomínku.
Je veux vivre cette atmosphère. Je ne veux pas qu'il disparaisse tout simplement de ma vie. Je vais garder le souvenir de son départ. Je me souviens encore de ce qu'il faisait dans les années 1970. Évidemment, je ne le connaissais pas personnellement, mais je garde le souvenir d'un homme qui avait le courage de dire ce qu'il pensait et qui est allé en prison à cause de cela. Moi, enfant, je savais que c'était interdit, mais il y avait une poignée de gens qui ont osé braver l'interdit et en ont payé le prix. Havel est donc pour moi un symbole de la liberté et du courage, surtout à l'époque du communisme.
L'ancien directeur de l'Institut français de Prague, Didier Montagnier, n'a pas manqué non plus l'occasion de rendre un dernier hommage au président défunt. Il met en avant le fait que la disparition de Václav Havel a encore aujourd'hui la force de mobiliser les foules comme une promesse, un signe que les valeurs auxquelles ce grand tchèque a consacré sa vie ne sont pas mortes.
Écoutez, bon, je pense que d'abord c'est lié à la grandeur morale de Václav Havel, à son statut de résistant pour tout le monde et pour lui-même, son souci du pouvoir des sans-pouvoirs. Et puis aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une portée symbolique par rapport à l'Europe et par rapport à la République tchèque, je pense que quelqu'un comme lui qui s'en va, pour moi et pour les Tchèques, c'est aussi l'un des grands dirigeants de ce XXe siècle qui a pu soulever des montagnes en quelque sorte. Et je dirais aussi que pour moi la présence, ma présence et la présence de tant de Tchèques, tant de jeunes Tchèques a une portée, une signification très grande. Je crois que ils savent de manière inconsciente ou consciente que les valeurs qu'il incarnait sont très rares aujourd'hui et peut-être dans la sphère politique tchèque, il va manquer beaucoup et tout le monde le sait. Et c'est pour ça que tout le monde est là pour peut-être dire et affirmer que ces valeurs, quelque part, doivent subsister. Mais je pense qu'il y a une grande valeur de déploration dans cette marche, hein, et peut-être d'attente de signal pour les politiques en place qu'il faut pas succomber, y compris à la mondialisation, y compris à la corruption, y compris aux puissances occultes, et qu'il faut continuer à résister, pourquoi pas à investir la place civique que Havel occupait.
Pour la réalisatrice de Český rozhlas Radio Public Tchèque Hanna Kofránková, Václav Havel représente un chapitre important de sa vie. C'est ainsi qu'elle a expliqué sa présence dans le cortège.
Já nevím, já jsem se s panem prezidentem nerozloučila tam
Je n'ai pas fait mes adieux à Monsieur le Président à l'église Sainte-Anne au centre Prashtka Krzyżowatka ces deux derniers jours et je me suis dit que je devais faire quelque chose pour moi, pour mériter de l'avoir eu. Il représentait pour moi toute une époque. C'était une personnalité qui a ouvert tout ce processus de démocratisation pour nous tous. Cela a commencé pour moi quand nous signions des appels répétés à sa libération de la prison communiste. C'est à ce moment-là que l'on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Et en effet, il a finalement été libéré. Nous savions tous qu'il allait partir, mais c'est triste. Quelque chose est fini.
Oui, le cortège qui accompagne le cercueil du président de la vieille ville au château de Prague symbolisait peut-être vraiment la fin d'une époque. Mais pour beaucoup, comme pour cette femme anonyme qui a parlé au micro de Radio Prague, c'était aussi quelque chose de plus.
Chceme se podělit o ten smutek, který asi každý z nás cítí, tak s ostatníma a
Nous voulons partager cette tristesse que nous ressentons tous sans doute. C'est certainement un rappel et une expression des idéaux que représentait Václav Havel pour nous tous qui sommes venus. Pour moi, il représente surtout une profonde humanité et l'expression du fait qu'il est possible de vivre l'amour et la vérité même en politique.
Le cortège arrivé au château de Prague, l'hommage populaire s'est transformé en une cérémonie officielle. C'est l'armée qui s'est chargée de cette étape de la cérémonie et a transporté le cercueil déposé sur une prolonge d'artillerie jusqu'à la salle Vladislav. C'est dans cette salle historique où s'est tenue la première investiture présidentielle de Václav Havel que le cercueil sera exposé jusqu'à vendredi, jour des obsèques nationales. Récemment, le théâtre Navinohradek à Prague présentait une lecture scénique de 5 dramaturges français, dont celle de la pièce Sortilège de Kaya Makele. Auteur franco-congolais, il était à Prague pour présenter son texte, qu'il a écrit dans la capitale tchèque à la faveur du programme Écriture du Monde. Sortilège est un drame familial autour de l'exil, inspiré de l'histoire de Rusalka, Londine de Dvořák. Les propos de Kaya Makele ont été recueillis par Anna Kubista.
Est-ce que l'exil, pour vous, c'est une thématique qui est particulièrement actuelle, selon vous? Quand on regarde un peu autour de nous ce qui se passe, quand on regarde finalement, c'est vrai, les phénomènes de migration, le fait que les gens se sentent même souvent déracinés dans leur propre pays, même si c'est leur pays, ils n'ont pas quitté, mais ils se sentent déracinés par rapport à ce qui se passe autour d'eux, à ce qu'ils observent du monde politique, du monde de la société.
Effectivement, l'exil est aujourd'hui peut-être le traumatisme du monde dans lequel nous vivons, mais c'est aussi peut-être une des grandes chances. Parce que les peuples, quelles que soient les époques, ont toujours été des peuples qui ont bougé, qui se sont transportés les uns et les autres chez les uns et chez les autres, qui se sont intégrés, qui ont recréé des cellules familiales et des manières d'être. Mais aujourd'hui, il me semble paradoxalement que nous sommes, maintenant que nous sommes au fait quasiment de la technologie, nous sommes aussi redevenus très casaniers. Et nous refusons la présence des autres. Et du coup, nous devenons exilés nous-mêmes à l'intérieur de notre propre territoire parce que les tendances, les personnalités, les sous-cultures se mettent en place et s'excluent les unes les autres. Et c'est en cela que le thème de l'exil m'intéresse, parce que l'exil en soi, c'est un déchirement, mais le rejet est un déchirement encore plus important.
Vous revenez également en janvier, dans quel cadre qu'allez-vous présenter? Est-ce que c'est cette pièce-ci ou une autre?
En janvier, c'est la même pièce, mais là, elle est mise en scène, mise en espace à Zlin. Et ça donnera certainement une autre lecture, une autre manière d'appréhender ce texte. Ce qui me plaît dans la démarche, c'est que la traductrice et la jeune femme qui met en scène aussi est féminin. Et Aslin, c'est pareil, c'est également une jeune femme qui met en scène. Donc je pense que ce personnage, mon Ondine à moi, s'est trouvé des sœurs de culture.
Juste une dernière question par rapport à la langue, puisque évidemment la langue est très importante quand, quand on est écrivain. C'est vrai que voir sa propre pièce dans une autre langue que la sienne, qu'on ne comprend pas forcément, ça doit être un rapport assez étrange de décalage. Et en même temps, on connaît la pièce tout en reconnaissant certains moments, mais tout en ne comprenant pas. Comment est-ce que vous vivez ces moments de redécouverte finalement de votre propre travail?
Alors c'est un moment exaltant parce que il me faut un effort considérable pour essayer de saisir quelques expressions langagières et de les traduire, moi qui suis très 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 nul en tchèque. Mais d'un autre côté, paradoxalement, je ne fais aucun effort de compréhension du déroulement de la pièce. J'ai réalisé que les Tchèques riaient au même moment que tous les autres publics et que la pièce fonctionnait quasiment de la même manière. Maintenant, moi, en tant qu'auteur, ce qui m'intéresse, ce n'est point le fait qu'on puisse traduire mot à mot mon texte et le représenter tel qu'il a été écrit. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'un metteur en scène se saisisse du texte et en fasse une partie de lui-même. Et quitte à peut-être à bousculer un peu le texte, à le rendre audible pour ceux à qui ce metteur en scène veut s'adresser. C'est en cela que je pense que mes textes sont destinés. Donc je ne veux pas qu'ils soient figés. Ma double culture fait que, du point de vue de l'Afrique, je viens d'une culture de l'oralité, et du point de vue de ma culture française, je suis un homme des mots écrits. Et donc, mais je pense que le théâtre se marie à cela. Les mots sont un cri, mais pour être dit, donc l'écriture et l'oralité sont au rendez-vous.
C'était donc l'écrivain franco-congolais Kaya Makele. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Retour sur la vie et le message de Václav Havel, ancien président et dissident, héros de la révolution de velours, décédé dimanche matin à l'âge de 75 ans. Jan Sokol est philosophe, ancien dissident, lui aussi candidat malheureux à la succession de Havel en 2003. Il s'est souvenu pour Radio Prague de sa rencontre avec Václav Havel.
Chapitre de l'histoire.
Je ne me souviens pas exactement, c'était vers la fin ou à la moitié des années 60, et, dans un groupe d'amis, il m'a fait une grande impression dès le premier moment, par sa modestie, oui, un certain autocontrôle qui n'est pas si commun parmi les intellectuels. Ce que Havel jamais ne faisait, c'était de bavarder.
Donc évidemment, Václav Havel est connu pour avoir été un des fondateurs de la Charte 77. La Charte 77, vous l'avez également signée. Comme lui, vous en avez également, vous avez subi les représailles du régime communiste. Est-ce que vous pourriez éventuellement évoquer un petit peu l'atmosphère à l'époque, si c'est possible, hein, c'est difficile sans doute, de cette époque justement de dissidence, comment est-ce que finalement les gens s'entraidaient?
L'époque n'était pas une époque de terreur. C'était plutôt une époque très sombre, très sans espoir. Et donc, Havel a eu le courage de l'exprimer sans beaucoup d'espoir immédiat. Et donc, je l'ai beaucoup apprécié, même si on ne s'est pas rencontré trop souvent à l'époque, parce que il a passé beaucoup de temps en prison. Et pour moi, c'était pas là pour la première fois, mais typique pour lui, car il a abandonné beaucoup de ses ambitions personnelles d'un auteur assez connu et bien qui a eu du succès, pour servir une cause, une chose publique, pour servir le peuple ici. Alors c'était magnifique.
Finalement, c'est quelque chose qui a continué par la suite, puisque d'une certaine façon, il est devenu président. C'était pas forcément dans ses ambitions. D'ailleurs, il disait souvent que c'était pas finalement quelque chose qu'il avait voulu au départ, et il a dû aussi renoncer finalement au cours de sa présidence à l'écriture, en tout cas une écriture peut-être plus poussée que ce qu'il faisait quand il était justement président. Finalement, c'est un peu une vie aussi qu'il a sacrifiée par la suite aussi, d'une certaine façon.
Oui, pour lui, c'était une grande surprise. Une chose qu'il n'a pas acceptée avec un cœur léger. Mais, vous savez, je me souviens toujours au mot de Platon qu'un bon au gouvernement, il doit y avoir des gens qui ne le veulent pas. C'est exactement le cas de Havel. Il n'était pas, et il a toujours, pendant toute sa présidence, il a toujours beaucoup réfléchi sur soi-même. Il a fait beaucoup de choses pour se défendre de ne pas devenir un politicien, un professionnel. Vous savez, il a toujours douté de soi-même, de son. Parfois, parmi les amis, il faisait la mine, comme s'il avait même honte d'être au pouvoir.
Alors justement, j'ai lu quelque part une phrase d'Arthur Miller qui dit que c'était le premier président surréaliste au monde. C'est une bonne définition?
Oui, c'est un. Il a toujours resté un homme. C'était délicieux de le voir dans une négociation importante comme président. Il a toujours su adresser ses partenaires d'une manière tellement amicale, et même avec de l'humeur, qui a fait son grand succès. Pas seulement les grandes paroles qu'il a bien managé, mais en particulier cette attitude amicale, toujours avec un léger sourire, parfois avec de l'humeur. Donc, son autorité consistait toujours dans ce qu'il ne s'imposait jamais.
Justement, quelle atmosphère un peu régnait dans les années 90 au château? On a souvent dit, voilà, les Rolling Stones étaient invités au château, ou alors Václav Havel se baladait en trottinette dans les couloirs du château. C'est quasiment, justement, surréaliste, on dirait quasiment que c'est une utopie devenue réelle, en fait, cette époque-là.
Il faut imaginer cette énorme difficulté pour un dissident de devenir un fonctionnaire de l'État. Parce que pendant toute notre vie, jusqu'à 89, on a éprouvé toujours l'État comme un ennemi dangereux. Oui. Toutes les institutions de l'État que nous avons rencontrées nous ont mis en danger. Et donc, à un certain moment, on devient le chef de toutes ces institutions. Alors, c'était un changement énorme, et naturellement aussi Havel lui-même avait besoin de temps pour le maîtriser d'une certaine manière. Et par les choses comme ce que vous rappelez, il a cherché à se faire ce devoir un peu plus léger, oui. À imaginer qu'il n'est pas seulement le président.
Václav Havel a-t-il un successeur spirituel, selon vous? Est-ce que, par exemple, quand on pense à Masaryk, finalement, son successeur, c'était Benesch, d'une certaine façon, qui était le porteur de ses idées, est-ce que c'est la même chose pour Václav Havel? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que c'est assez flou, en fait. Hein.
Oui, c'est une grande difficulté. J'ai peur pour la politique de mon pays, parce que, vous savez, il a fait une grande carrière. Il a apporté à l'État, à cet État petit, pas trop signifiant, il a grâce à lui que la Tchécoslovaquie a acquis un certain renommé international tout à fait inouï. Même Masaryk n'avait pas un tel succès international. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas reproduire. Et cette succès était grâce à sa manière ainsi humaine, comme je disais, modeste, avec un certain, il était presque timide. Il faisait l'impression presque timide, toujours un peu courbé, et avec ce sourire, qui a charmé chacun de ses interlocuteurs. Et c'est quelque chose qui est naturellement, derrière tout ça, il y avait une grande, oui, il faut le dire, générosité, magnanimité, par exemple, envers l'Europe, qui était pour lui quelque chose qui n'appartient au domaine du calcul. C'est quelque chose qui s'est perdu.
Oui, je me pose la question, hein, parce qu'évidemment, on avait pris l'habitude, même voilà, après la fin de ses mandats présidentiels, qu'il reste finalement, après une petite pause, hein, parce qu'il avait fait une petite pause, hein, il était parti au Portugal, ne pensait plus vraiment intervenir aussi souvent dans la vie publique, mais finalement, c'est, la politique doit être un animal qui vous rattrape. Il intervenait fréquemment, il commentait l'actualité politique jusqu'au dernier moment. Récemment, il avait critiqué notamment certaines dérives extrémistes au sein du gouvernement. Hein, je fais référence notamment à Ladislav Batora, au parti Affaires Publiques. Il s'inquiétait, hein, de la vie politique de manière assez sérieuse. Justement, enfin, je veux dire, comment aujourd'hui va-t-on, puisque finalement Václav Havel était un peu ce miroir qui nous renvoyait les choses de la vie politique, qui va le faire à sa place maintenant?
Oui, alors il est comme ça, il est irremplaçable, vous savez, c'est même parce que il est devenu politicien dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et donc son autorité domestique, internationale, aucun ne peut pas le reproduire. Ce qui lui a fait des soucis dans le dernier sens, c'est un léger tournant envers un égoïsme de l'État qui pourrait être dangereux. Même maintenant, après sa mort, le public se rendra mieux compte de la comment c'est dangereux de jouer avec des idées nationalistes, chauvinistes, tout ça, oui. Droite, disons, brunâtre.
Juste pour terminer, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que Václav Havel s'inscrit dans une sorte d'héritage finalement de Masaryk, par exemple, premier président de la Tchécoslovaquie, et Václav Havel, dernier président de la Tchécoslovaquie avant de devenir premier président tchèque?
Oui, c'est ça, oui. Alors Havel a partagé beaucoup de traces avec Masaryk. Mais naturellement, il a fait d'une manière très personnelle. Alors, on ne peut pas le comparer avec Masaryk quant à leur manière de, par exemple, de s'adresser au public ou de ça, oui. Mais dans les idées d'un bon État, d'un bon État démocratique, naturellement, il y a une liaison très étroite.
C'était le philosophe Jan Sokol qui s'est souvenu de sa rencontre avec Václav Havel. Jan Sokol a été interrogé par Anna Kubišta. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.